Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce jeudi 10 juin. Bertrand Tunganamé pour vous accompagner. Au sommaire, l'état de l'économie australienne en ce milieu de semaine avec Nicolas Perpich. Nous avons également un entretien entre Grégory Pless et Xavier Barthélémy pour nous parler du nouveau spectacle du Petit Théâtre de Sydney. Place à présent à l'actualité de ce jeudi qui sera suivie par le magazine des sports de Jean-Noël Ducasse. Quatre nouveaux cas locaux de coronavirus enregistrés au Victoria. Et des voyageurs en provenance de Melbourne testés positifs au COVID-19 déclenchent l'état d'alerte au Queensland et à Nouvelle-Galles du Sud. Et en France, introduction du pass sanitaire et levée partielle du confinement. Quatre nouveaux cas de COVID-19 acquis localement ont été enregistrés au Victoria. Les autorités sanitaires affirment que les cas proviennent du même ménage et des enquêtes sur la façon dont ils ont contracté le virus sont en cours. Le verrouillage de la métropole de Melbourne devrait être levé à 23h59 ce soir. À partir de ce soir, les 5 raisons de quitter son domicile ne s'appliqueront plus et la limite de déplacement de 10 km passera à 25 km. Et l'interdiction de se rassembler dans les maisons reste tout de même en vigueur. Le mari d'une femme de Melbourne qui a été testée positive au COVID-19 sur la Sunshine Coast après avoir quitté le confinement et traversé 3 états a également été confirmé avoir le virus. Le couple a traversé la frontière avec la Nouvelle-Galles du Sud le 1er juin dernier où ils ont visité des centres régionaux. Ils sont arrivés au Queensland le 5 juin, 2 jours après que la femme de 44 ans avait commencé à montrer des symptômes de coronavirus. Les autorités de la Nouvelle-Galles du Sud ont émis des alertes pour plusieurs centres régionaux où le couple s'est arrêté. Il s'agit des localités de Forbes, Dabo, Moray et Gillenba. La liste des sites d'exposition Queensland comprend notamment Goondiwindi, Moffat Beach, Kings Beach, Bodina, Baringa et Caloundra. Selon Yvette Dutt, la ministre de la Santé du Queensland, les cas sont à la fin de leur période de contagiosité, ce qui signifie que le risque est inférieur aux prévisions initialement annoncées par les autorités.
But we are saying to people, please have a look at the exposure sites. If you've been to an exposure site, you need to get tested and quarantine and wait for advice from Queensland Health. So you need to register online with the contact tracing form and Q Health will contact you and advise you how long you need to be in quarantine for.
Et le Premier ministre Scott Morrison rencontrera son homologue singapourien Lee Hsien Loong ce jeudi 10 juin. À l'ordre du jour de leur discussion figure notamment la définition des conditions d'une bulle de voyage entre les deux pays. L'Australie a déjà un accord de voyage sûr avec la Nouvelle-Zélande, mais un accord avec Singapour renforcerait considérablement la confiance des secteurs du tourisme, de l'éducation et du commerce. Le gouvernement de Singapour avait soumis un certain nombre de propositions à l'Australie depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Les deux pays ont introduit un système de certificats pour vérifier qui a été vacciné contre le COVID-19, ce qui pourrait faciliter l'établissement d'un couloir de voyage sûr. Et la ministre de l'Intérieur, Karen Andrews, a défendu sa décision de ne pas intervenir dans le cas d'une famille de demandeurs d'asile tamoul menacés d'expulsion. La plus jeune fille de la famille, Marugapan Tarmika, a été évacuée de Christmas Island vers un hôpital pédiatrique de Perth en début de semaine. La fillette souffrirait d'une infection du sang et ses symptômes qui ont commencé il y a 10 jours comprennent notamment des fortes fièvres, des vomissements et la diarrhée. Cela a conduit à des nouveaux appels pour mettre fin à la détention de la famille et leur permettre de retourner chez eux dans la ville de Biloela, dans le centre du Queensland. Mais s'adressant à Channel 7, Mme Andrews a justifié sa position ferme en mettant en avant la politique du gouvernement en matière de protection des frontières.
Let's not forget the history that we've had here, where we know that more than 1,200 people actually died trying to get here. I'm not going to open the gates to the people, smugglers. Now, having said that, obviously we are concerned for the welfare of people who are in Australia, and I am assured by Border Force that they are doing everything they can to make sure that that particular family is well accommodated on Christmas Island.
Et la côte est de l'Australie est frappée par une tempête hivernale caractérisée par des vents violents et des inondations. Suite à cette situation, les services de secours du Victoria ont reçu des milliers d'appels à l'aide. La nuit dernière, des vents violents atteignant des vitesses jusqu'à 120 km à l'heure ont frappé certaines parties de l'État et les localités de Lilydale et Emerald dans l'extrême sud-est de Melbourne figurent parmi les zones les plus durement touchées. L'ouest du Gippsland est également en alerte pour les inondations fluviales après le mont Baobao, le mont Tassie et les Thompson-Yarra Divide. Ces localités ont enregistré des taux de pluviosité supérieurs à 200 mm. Jackson Bell, le commandant des SES, State Emergency Services du Victoria, a déclaré à la chaîne Nine Network qu'il n'avait pas vu un événement météorologique comme celui-ci depuis plusieurs années.
We've got one part of the state experiencing significant rain, and then we've got another part of the state, particularly metropolitan Melbourne and other parts, experiencing significant wind of extraordinary amounts of speed. And as you would have seen from the devastation, will be days to come in the cleanup. That's wow. For sure.
Une alerte au temps violent avec des vents destructeurs reste d'actualité pour les parties sud du Victoria et le nord de la Tasmanie. En Nouvelle-Galles du Sud, la vague de froid a apporté de la neige généralisée dans les villes régionales de Orange, dans le centre-ouest de l'État, et d'Oberon, dans les plateaux du centre. On s'attend à ce qu'il neige également dans la Granite Belt du Queensland, un événement rarissime dans cette région. Et en France, la troisième étape du déconfinement est entrée en vigueur depuis hier, mesure caractérisée notamment par la réouverture des salles de sport, de restaurants et le retour des festivals. Annoncée par le président Emmanuel Macron il y a plus d'un mois, cette nouvelle étape a reçu un accueil globalement positif. Mais nombreux sont ceux qui continuent de réclamer la levée totale de toutes les restrictions sanitaires. Le professeur Antoine Flahou, épidémiologiste et professeur de santé globale à l'Université de Genève, explique pourquoi il est nécessaire de procéder par étapes successives.
Ce qui est en jeu en ce moment pour l'Europe, c'est clairement l'été. Il faut que l'été se passe dans les meilleures conditions possibles et ça vaut le coup d'avoir un petit coup de collier supplémentaire pendant quelques semaines ou quelques jours encore et qui permettra probablement d'arriver à quelque chose qui sera une situation très similaire à celle qu'on a connue en juin 2020 au moment où il y avait quelque chose comme 1000 à 2000 cas par jour en France, mais pas plus. Et si on arrive à la même situation, ce sera une situation beaucoup plus facile pour les autorités de santé à prendre en charge, c'est-à-dire qu'ils pourront repérer toutes les chaînes de transmission de façon très exhaustive, ne pas laisser repartir des foyers ou flamber des clusters comme on a pu le voir jusqu'à présent.
Et c'était le professeur Antoine Flahou au micro de nos confrères de RFI. Et c'est aussi ce mercredi 9 juin 2021 que le pass sanitaire est entré en vigueur en France, un pass qui sera exigé pour assister à des événements réunissant plus de 1000 personnes. Le pass sanitaire consiste en la présentation numérique via l'application Tous Anti-Covid ou papier d'une preuve que le porteur remplit les trois conditions suivantes. Un schéma vaccinal complet, la preuve d'un test PCR négatif de moins de 48 heures ou le résultat d'un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la COVID-19 datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois. On signale que le déconfinement total entrera en vigueur le 30 juin prochain. Le 30 juin prochain et marquera le retour à une liberté quasi totale. Et toujours en France, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, est revenu sur l'agression d'Emmanuel Macron, giflée mardi dernier par un homme de 28 ans lors d'un déplacement dans la Drôme. Gabriel Attal estime que cet incident n'est pas représentatif de la société française.
Je ne crois pas que cette information soit exacte. Je vous le dis, cette information d'ailleurs n'est pas exacte. Il n'y avait pas eu d'alerte particulière sur ce moment, ce bain de foule. Il y a évidemment une vigilance permanente du groupement de sécurité de la présidence de la République, mais il n'y avait pas eu d'alerte particulière sur ce moment précis. Il y a une vigilance, évidemment, mais il y a un souhait du président de la République et du gouvernement d'avoir des contacts les plus directs possibles, et évidemment que cela se poursuivra.
Le président des États-Unis, Joe Biden, est arrivé au Royaume-Uni hier pour son premier voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction. Dans sa première déclaration, le président américain a souligné la nécessité pour les démocraties du monde de s'unir. Joe Biden s'entretiendra ce jeudi avec le premier ministre britannique Boris Johnson en marge du sommet du groupe des 7 à Carbis Bay. Muriel Delcroix de RFI revient sur cette visite historique et les principaux points des discussions.
Après les petites phrases peu élogieuses de Joe Biden à l'égard de Boris Johnson, qu'il avait qualifié de mini-Trump, l'enjeu pour les deux hommes est de repartir sur de bonnes bases. Pour cela, le président américain a déjà pris soin de réaffirmer la fameuse « relation spéciale » à laquelle tiennent tant les Britanniques. Mais l'expression déplaît à Boris Johnson car elle place selon lui le Royaume-Uni en position de faiblesse. Le Premier ministre, qui veut promouvoir le concept de Grande-Bretagne globale, voit lui plus grand, d'où l'idée d'une nouvelle charte de l'Atlantique sur le modèle de la déclaration historique de Franklin Roosevelt et Winston Churchill en 1941, qui jetait les fondements d'une nouvelle politique internationale après la Seconde Guerre mondiale. Dans la version 2021, les deux dirigeants s'engageront à combiner leurs forces pour venir à bout des énormes défis de la planète, que ce soit la défense de la démocratie, la sécurité, la lutte contre le changement climatique ou la reprise après la pandémie. Pragmatique, Joe Biden semble prêt à jouer le jeu malgré le déséquilibre entre les deux puissances. Mais en contrepartie, on s'attend à ce que le président américain fasse pression en privé sur Londres pour honorer ses engagements post-Brexit en Irlande du Nord, un contentieux qui empoisonne depuis des mois ses relations avec l'Union européenne.
Et un tribunal de Moscou a désigné hier comme extrémistes les organisations de l'opposant Alexei Navalny. Cette mesure, qui tombe à quelques mois des législatives de septembre prochain, permet la liquidation de ces organisations et une répression accrue des partisans du leader politique emprisonné. Les avocats de M. Navalny ont déclaré dans un communiqué que les preuves présentées par les procureurs n'étaient pas satisfaisantes et ils feront appel de la décision. Et retour en Australie, et plus précisément en Australie-Méridionale, où un projet de loi visant à légaliser l'aide volontaire à mourir a été adopté par la Chambre basse de l'État. Ceci en fera presque certainement une loi. La Chambre d'Assemblée de l'Australie-Méridionale a débattu du projet de loi pendant 6 heures la nuit dernière, avant de voter 33 contre et 11 en faveur de donner aux adultes en phase terminale le droit d'accéder à l'aide à mourir. Plusieurs amendements ont été ajoutés à ce projet de loi qui ira ensuite à l'Assemblée législative pour approbation finale. Si la législation est adoptée par la Chambre haute, l'Australie-Méridionale deviendra le 4e État australien à légaliser les lois sur l'aide volontaire à mourir après le Victoria, l'Australie-Occidentale et la Tasmanie. Et un coup d'œil météo à travers les principales villes d'Australie, Perth 22 degrés, Adélaïde 17, Melbourne 16, Hobart 13, Canberra 10, Wollongong 14, Sydney 13 degrés, Newcastle 14, Brisbane 18, Cairns 25 et Darwin 31 degrés. Un rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi, 4 nouveaux cas locaux de coronavirus enregistrés au Victoria. Et des voyageurs en provenance de Melbourne testés positifs au COVID-19 déclenchent l'état d'alerte au Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud. Et en France, introduction du pass sanitaire et levée partielle du confinement.
Programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Je journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le tournoi de Roland-Garros et la victoire de Nadal contre Schwartzmann hier, victoire de Djokovic également contre Berrettini. Eric Mamrut, Radio France International.
Effectivement, on aura la demi-finale tant attendue entre les deux meilleurs joueurs du monde actuel, Nadal et Djokovic. De l'autre côté, il y aura le duel de la nouvelle génération entre Alexandre Zverev et Stefanos Tsitsipas. Mais quelle drôle de qualification, quel drôle de match ce soir entre Novak Djokovic et Matteo Berrettini. L'Italien, je vous donne déjà le score, 6-3, 6-2, 6-7, 7-5. C'était compliqué pour Djokovic qui s'impose après 3h28 d'un drôle de combat. Un intense combat, il a d'ailleurs hurlé sa joie, était très en colère à la fin. Novak Djokovic, il est vrai que, eh bien, nous avons assisté à un drôle de moment puisque au départ, vous saviez, c'était la première nocturne avec du monde, 5000 personnes, beaucoup de joie, beaucoup de fêtes. Et puis à 23h, eh bien, messieurs dames, merci, c'est le match n'est pas fini, mais il faut rentrer chez vous. Et grosse colère aussi du public, beaucoup de sifflets, tout le monde est parti, les joueurs se sont retrouvés, eh bien, sans ambiance, sans rien, son public un peu désemparé. Scène étrange, enfin effectivement, on est passé du froid au chaud, ou plutôt l'inverse. Et à l'arrivée, eh bien, ça s'est terminé dans le silence total. Le huis clos qui est revenu, le monde de maintenant qui a remplacé le monde d'avant. Bizarre, mais bon, à l'arrivée, eh bien, on aura Nadal Djoko.
Chez les dames, victoire de Krejčíková, la Tchèque, contre Goff, l'Américaine. Sakkari, la Grecque, sort la tenante du titre. Swiatek, la Polonaise. Fred Sudo, RFI.
Oui, Iga Swiatek battue par Maria Sakkari, la Grecque, en 2-7, 2 manches, 6-4, 6-4. Et pour être honnête, pas grand monde ne l'a vu venir, hein, cette défaite de la Polonaise. Iga Swiatek n'avait pas perdu une manche à Roland-Garros depuis 11 matchs, hein, puisque l'an passé, sur sa route vers le trophée, le titre en octobre dernier, elle avait remporté ses 7 matchs sans concéder le moindre 7, et là on l'a senti très très crispé, Iga Swiatek, face aux frappes lourdes de Maria Sakkari, qui elle accède pour la première fois aux demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem. Elle s'était déjà hissé en huitième de finale à l'US Open et à l'Open d'Australie sur du dur, mais là on est sur la terre battue, et Iga Swiatek semblait programmée, lancée pour aller minimum jusqu'à une nouvelle finale ici à Roland-Garros. Alors elle avait un gros bandage en haut de la cuisse droite, peut-être quelques douleurs physiques. En tout cas, c'est bien Maria Sakkari qui accède aux demi-finales. Elle retrouvera la Tchèque demain, Barbora Krejčíková, qui a éliminé l'Américaine Coco Gauff.
Mardi, en quart de finale, Tsitsipas, le Grec, a battu Medvedev, le Russe. On écoute le Russe déçu et aussi ravi d'être arrivé en quart de finale à Roland-Garros, lui qui n'aimait pas la terre battue autrefois.
Je suis toujours déçu quand je perds. Après, dans l'autre côté, j'ai fait tout ce que je pouvais. Il y avait un peu de malchance et en même temps, il y avait des moments où il a très bien joué pour gagner ce match. Ça, c'est le tennis. Oui, je pouvais faire mieux, mais c'était un bon match. Et si une semaine avant, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ok, Daniel, est-ce que tu signes que tu vas être en quart de finale en battant Bublik, Paul, Pelka, des bons mecs, Garin, et tu perds quand tu te passes sur un match accroché ?» J'ai dit « Allez, je signe. » C'est quand même positif et j'espère que ça va marcher comme ça chaque année à Roland, que je vais pouvoir faire des résultats encore mieux même.
L'Allemand Zverev a gagné contre l'Espagnol Davidovic Fokina en 3 manches. Et chez les dames, à nouveau, quart de finale, mardi, Paliushenkova, la Russe, a battu la Kazakh Rybakina 9-7 dans la 3e manche et retrouvera en demi-finale Zidanček, la Slovène, ce jeudi. La Slovène qui a battu Badosa Gibert, l'Espagnol 8-6 dans la 3e manche. Le Tour de France, c'est dans moins de 3 semaines, et cette analyse de Alberto Contador, selon Contador, la montagne décidera tout pour ce Tour de France. Matteo Cioffi, RFI.
Il a été l'un des rois de la petite reine. Alberto Contador a tout emporté, Giro, Vuelta et Tour par deux fois. Sur la grande boucle, l'Espagnol a toujours fait la différence sur son terrain de jeu préféré, c'est-à-dire la montagne. Pour lui, c'est quand la route grimpe que les favoris s'affirment. Et ça ne devrait pas changer lors du prochain Tour de France.
Para mí, Pour moi, le moment décisif sera dans les Pyrénées. Là, les choses basculeront réellement, avec des ascensions très dures, comme celle du col de Saint-Louis, mais aussi l'arrivée dans la station de Luzardiden, où les cyclistes devront s'affirmer avant d'affronter le terrible Tourmalet.
Contador Lecoeur était aussi connu comme un cycliste pressé, qui n'avait pas de temps à perdre, comme il a souvent montré dans le contre-la-montre, autre juge de paix clé sur la grande boucle.
Le contre-la-montre ne décidera pas forcément tout. Mais c'est vrai que si on veut remporter le Tour, il faut se battre et tout donner dans les chronos. Geraint Thomas et Primoz Roglic sont les favoris, mais attention à ne pas oublier Tadej Pogacar. Il est le vainqueur du Tour en 2020 et en grande forme.
El Pistolero ne dégaine plus, lui qui a rendu les armes en 2017, mais il ne manque pas de successeur.
Je pense que les candidats les plus sérieux à la victoire finale seront tout d'abord Roglic ou Pogacar. Après ces deux-là, j'ajoute le trio très puissant qui compose l'équipe Ineos, c'est-à-dire Geraint Thomas, Tao Hart et Richard Carapaz. Je vois donc une course très ouverte avec beaucoup de prétendants.
Prédiction donc à vérifier à partir du 26 juin sur les routes de France.
On passe au foot, l'Euro démarre dans quelques jours et mardi en match de préparation, la France a battu la Bulgarie 3-0. Antoine Grenier, RFI.
Dans cette équipe de France, victoire 3-0 des Bleus avec un doublé de la doublure. Olivier Giroud, relégué sur le banc par le retour de Karim Benzema et par son faible temps de jeu à Chelsea, eh ben, il est venu inscrire aux 83e et 90e minutes les deux derniers buts de l'équipe de France. Ses 45e et 46e personnel, ça le rapproche à 5 petites unités du record de Thierry Henry. Olivier Giroud, homme du match, et pourtant Karim Benzema avait débuter la rencontre. Le problème, c'est que le Madrilène s'est blessé dans un choc avec un défenseur bulgare et a dû sortir avant même la mi-temps. Les Français avaient marqué un petit peu avant ça par Antoine Griezmann, un but superbe, une bicyclette. 3-0, les Bleus concluent parfaitement leur préparation à l'Euro et un Euro qu'ils démarreront dans une semaine à Munich face à l'Allemagne.
On écoute maintenant la réaction de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.
J'ai eu beaucoup de très très bonnes choses, après j'ai géré les joueurs aussi. On y est, on sait ce qui nous attend. Évidemment, ça sera beaucoup plus difficile le 15, mais de prendre ce match amical en pensant à celui qu'on aura le 15, c'est ce qui était important, on l'a fait. On aurait pu marquer plus de buts, mais on reste sur deux bonnes performances. Maintenant, c'est la compétition et il n'y a que cette vérité qui compte.
Faut toujours un mot de la Copa América. Aura-t-elle lieu au Brésil dans quelques jours? Tentative de réponse avec Olivier Pron pour RFI.
Rien n'est moins sûr. Les joueurs de la sélection brésilienne, justement, se sont déclarés cette nuit contre l'organisation de la compétition dans leur pays. Déclaration faite sur les réseaux sociaux. Mais ils ont assuré néanmoins qu'ils disputeraient le tournoi s'il avait lieu malgré la pandémie de Covid-19. Ils précisent, pour diverses raisons, qu'elles soient humanitaires ou professionnelles, nous sommes insatisfaits de la façon dont la Conmebol a géré la Copa América. Pour rappel, le Brésil a été désigné pour recevoir la compétition il y a 8 jours, à la surprise générale, après les désistements de la Colombie et de l'Argentine. C'est la Cour suprême brésilienne qui doit maintenant trancher. Jeudi, on sait combien le pays est aux prises avec une forte épidémie de Covid-19 et beaucoup de morts.
On passe au rugby. En Australie, le premier match de la State of Origin hier à Townsville, avec la victoire des Blues de Nouvelle-Galles du Sud, 50-6 contre le Queensland. Un mot de l'AFL avec le coach de Collingwood, Nathan Buckley, qui a présenté sa démission hier après 10 ans de gestion. Et voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble.
Et c'est C'était « Je me jette à ton cou » par Gaëtan Roussel qui nous arrive sur les antennes de la radio SBS à 13h28min54s. Bien, dans le programme aujourd'hui, nous allons vous présenter un entretien entre Grégory Pless et Xavier Barthélémy pour nous parler du nouveau spectacle du Petit Théâtre de Sydney. C'est leur première pièce depuis le début de la crise sanitaire. Mais à présent, on va passer à une courte pause et après la pause, on retrouve Jean-Noël Ducasse et Nicolas Perpich pour nous décrypter l'état de l'économie australienne en ce milieu de semaine.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Le Bureau australien des statistiques a publié les données sur les impôts. Qu'est-ce qu'on a appris?
Bah oui, c'est très intéressant. Donc voilà, le Bureau australien des statistiques qui a annoncé les données basées sur les impôts de 14 700 000 Australiens pour l'année 2018 à 2019. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que en fait, il y a 66 Australiens qui ont gagné, eux, plus de 1 million de dollars pour cette année financière, qui n'ont pas payé un seul centime d'impôt. Bon, c'est un peu moins que l'année d'avant, quand c'était 73 Australiens, mais quand même, c'est impressionnant. Et aussi, il y a 156 personnes qui avaient un salaire entre 500 000 dollars et 1 million, qui, eux non plus, n'ont pas du tout payé d'impôts. Voilà, on voit que le système australien est assez complexe. Et si on a... il y a des gens qui arrivent à toujours pas payer d'impôts pour une raison ou une autre. Et on voit aussi que les quartiers les plus chers reste en Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney et à Melbourne. Donc, 7 des quartiers les plus chers sont à Sydney. Et il y a des endroits comme Double Bay, au bord de la mer, et du Harbour. Et aussi à Melbourne, il y a Toorak. Donc ça ne change pas. Et là, les salaires en moyenne sont à peu près 200 000 dollars pour chaque personne dans ce quartier, dans ces deux quartiers. Donc il y a à peu près 10 000 personnes à Toorak, et à Double Bay, à peu près 3 500. Ce qui est intéressant, c'est que si des endroits où les gens gagnent le moins d'argent sont en Nouvelle-Galles du Sud, dans les régions, ou au Queensland, dans les endroits souvent où il y a eu pas mal de sécheresse. Alors on voit là, par exemple, l'endroit de Barron Junction et Drilldool, qui sont pas loin de Narrabri, en Nouvelle-Galles du Sud. Là, les gens, en fait, ils ont perdu leur salaire, c'est moins 9 700 dollars. Donc, ils ont perdu de l'argent, souvent peut-être des fermiers. Il y a d'autres endroits comme ça, où, par exemple, il y a Rowena, un endroit aussi en Nouvelle-Galles du Sud. Et là, les gens, ils avaient un salaire de 900 dollars. Donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup là. Et si on regarde ces données un peu plus, on voit que les médecins dominent les professions où les gens gagnent le plus d'argent. Donc, un chirurgien, c'est numéro un, l'occupation où on gagne le plus d'argent, à presque 300 000 dollars chaque année. Bon, il y a beaucoup d'autres médecins. Il y a aussi des financiers, des psychiatres, des avocats, des ingénieurs, etc. Et on voit que, par contre, ceux qui gagnent le moins d'argent sont, par exemple, les serveurs, les femmes et les hommes de ménage, les fast food cooks, qui gagnent 20 000 dollars l'année, 25 000, 27 000. Donc, on voit là que, en fait, si on voit qui paye la plupart des impôts, c'est vrai que 3,5% des Australiens qui gagnent le plus d'argent, eux, ils contribuent 31,5% de tous les impôts, le income tax que le gouvernement récolte. Sinon, le plus grand groupe qui paye les impôts, c'est les gens qui gagnent entre 37 et 90 000. Ça fait 41,7% de la population. Donc ça, ces gens-là, ils payent une énorme quantité, à peu près 40% de tous les impôts. Et sinon, il y a les gens qui gagnent en dessous de 37 000 dollars par l'année, et eux, ils comprisent à peu près 40% de la population. Alors on peut dire qu'en fait, 80% des gens qui payent l'impôt gagnent moins que 90 000 dollars chaque année. Et en tout, eux, en fait, ils comptent à peu près un tiers de tous les impôts payés chaque année en Australie.
Et puis, Nicolas, l'or vaut beaucoup d'argent en Australie occidentale avec, je crois, une personne qui a payé une somme énorme pour en acheter récemment.
Oui, tout à fait. Donc, c'était une découverte en 2018, en fait, d'un très grand spécimen de roche d'or, de roche aurifère. C'est en fait le plus grand spécimen trouvé au monde et qui a été nommé le King Henry, nommé après l'homme qui l'a trouvé, qui s'appelait Henry. Ça a été trouvé dans une mine, donc dans les Gold Fields. Et là, ça vient d'être vendu au Perth Mint pour 3 millions de dollars. Donc, ça avait été trouvé 500 mètres sous la terre, dans une mine qui s'appelle Beta Hunt, à côté de la ville de Canberra. Donc, c'était une compagnie privée qui s'appelle Carora Resources. Et c'est une compagnie canadienne. Et donc, les gens, ils pensaient que ça allait être vendu à l'étranger. Mais non, en fait, ça va rester ici en Australie. C'est donc, en fait, le gouvernement qui l'a acheté pour probablement moins que ça aurait été vendu si ça aurait été au privé, parce que d'habitude ça s'est vendu pour 2-3 fois plus que ces 3 millions et demi de dollars. Et donc dans ce rocher, il y avait 1411 d'or, ce qui est quand même impressionnant, mais quand même c'est pas non plus, il y a d'autres spécimens qui sont pas des roches d'or, mais juste de l'or tout seul. Donc il y a le fameux Australian Kangaroo One Ton Gold Coin qui vaut à peu près 60 millions de dollars. Et dans le temps, il y a très très longtemps, il y avait aussi ce qui s'appelle le Golden Eagle, qui avait été retrouvé en 1931, aussi dans les Gold Fields. Et il y avait un poids de 1135 onces. Et ça avait été trouvé par un jeune homme de 16 ans. Mais malheureusement, c'était pendant la Grande Dépression. Donc le gouvernement, là, l'avait fondu pour faire des lingots. Parce que bon, c'était la dépression, ils avaient besoin de l'argent. Donc ça n'existe plus, mais c'était en forme d'un aigle, en fait. C'était assez impressionnant. Mais voilà, donc le King Henry, le spécimen qui maintenant on peut aller le voir, on peut aller au Perth Mint pour visiter ça et le voir en vrai.
Une nouvelle ruée vers l'or en Australie occidentale.
Exactement.
Merci Nicolas pour cette analyse. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'était la saison de pluie avec Ramon et Loïc Fleury. Place à une courte pause et après la pause, on retrouve Grégory Pless en conversation avec Xavier Barthélémy pour nous parler de la nouvelle, d'un nouveau spectacle du Petit Théâtre de Sydney, un spectacle qui commence, donc aura lieu à Sydney entre le 17 et le 26 juin prochain.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de théâtre avec Xavier Barthélémy. Bonjour.
Bonjour.
Alors Xavier, vous êtes le directeur artistique de la troupe Le Petit Théâtre Sydney et on se parle aujourd'hui parce que vous avez un nouveau spectacle qui va commencer d'ici une petite semaine. On reviendra sur les dates tout à l'heure, mais donc un nouveau spectacle bientôt sur scène à Sydney.
En effet, nous produisons notre après avoir survécu au Covid, nous produisons notre nouveau spectacle qui est donc le Nombril de Jean Anouilh que nous présentons 15 jours au Chippen Street Theatre qui est à Chippendale à Sydney.
Alors, pour ceux qui connaissent pas comme moi, je le confesse, le Nombril de Jean Anouilh, en quelques mots, quelle est l'intrigue?
Eh bien, c'est donc le Nombril, comme son nom l'indique, en fait, c'est l'histoire d'une famille qui est très égocentrique, on va dire. Donc, et donc chacun des personnages s'occupe principalement de son nombril, hein, comme l'expression en français, être nombriliste. Et donc, il y a 12 personnages dans cette pièce. Et donc, le personnage principal, c'est Léon, qui est un vieil écrivain, de pièces dramatiques. Et qui va pas très bien physiquement. Donc sa femme, ses enfants, sa maîtresse et son ami d'enfance, sous couvert en voulant être gentil, viennent lui demander de résoudre leurs problèmes, souvent financiers. Et finalement, enfin, ils n'en veulent qu'à son argent ou à son temps en tout cas. Et donc, y compris son médecin. Et voilà, il y a juste donc deux personnages qui sont un peu en dehors de ça. Donc les personnages de la pièce, c'est Léon, il y a donc sa femme, sa maîtresse, ses trois enfants, et puis donc il y a un médecin et deux déménageurs qui ont un rôle un peu particulier dans la pièce.
D'accord, ok. Alors, le Petit Théâtre Sydney, la particularité de votre troupe, c'est que vous vous représentez en français. Ici en Australie et donc à Sydney en particulier, mais pour pas oublier les anglophones, ils sont quand même assez nombreux à Sydney. Il y a des surtitres comme à l'opéra, c'est ça?
En effet. En fait, nous sommes une association de amateurs de théâtre français à Sydney. Et donc nous avons des activités, nous faisons des représentations depuis un certain temps déjà. Nous avons officiellement commencé en 2015, mais nous avons tous un peu plus longue expérience que celle-ci. Donc en fait, on présente des pièces et des pièces ou des ateliers, mais donc tout en français, puisque c'est le but de notre association. Mais en effet, maintenant il faut aussi voir que nous sommes en Australie, et donc en fait, notre public se compose à moitié, une bonne moitié, oui, de gens qui sont ou francophiles ou qui sont les partenaires des Français qui viennent nous voir. C'est-à-dire que nous offrons un spectacle qui puisse être compris par des gens qui apprennent le français, par des gens qui ont envie de comprendre le français, ou par les époux ou les partenaires, comme on dit même ici, des Français qui vivent ici. Et donc, pour que tout le monde puisse comprendre la pièce. De la même façon, on essaye aussi toujours de présenter plus ou moins des comédies. Ça permet d'alléger la situation et donc d'avoir un peu plus un théâtre, on va dire, de présence, de physique.
C'est pas uniquement basé sur le texte.
Exactement. Voilà, c'est ça. Donc ça permet de mélanger un peu les genres et donc souvent la traduction est faite d'ailleurs avec beaucoup d'attention, hein. On passe vraiment beaucoup de temps dans les sous-titres parce que l'art du sous-titre comme est un art en soi, puisque c'est pas une traduction mot à mot, mais c'est adapté à la culture locale pour qu'ils puissent comprendre les références ou les blagues qui sont dans le texte, en fait.
D'accord, ok. Alors, donc, la pièce est jouée en français, mais avec des surtitres en anglais pour que tout le monde puisse suivre ce qui se passe. Vous disiez tout à l'heure que la moitié du public est de langue maternelle anglaise et que vous avez ça à l'esprit lorsque vous assurez vos représentations. Est-ce que peut-être vous parlez plus lentement, vous utilisez des mots un peu plus simples que le texte original, ou c'est simplement un gros travail sur la traduction pour s'assurer qu'on n'est pas juste dans une traduction littérale, mais bien une adaptation, que tout le monde puisse comprendre les blagues, les jeux de mots, etc.
Excellente question d'ailleurs. Non, le texte est assez peu modifié. Le texte original en français, en tout cas, est assez peu modifié, suivant la volonté du, du metteur en scène, évidemment. Hein. Mais parce que donc des fois, on est obligé d'adapter ou de raccourcir un peu. Mais non, on essaye de changer le moins possible. Mais en effet, toute l'activité d'adaptation, est dans, comme vous dites, c'est l'adaptation dans une langue étrangère. De même, des fois, on trouve les textes déjà traduits, mais ils sont réadaptés parce que les textes traduits ne sont pas forcément avec la référence culturelle de ce que l'on montre aussi. Parce que par exemple, il y a des blagues où le texte a été en anglais, a été complètement changé pour faire d'autres références culturelles. Mais comme nous le jouons en français, il faut pouvoir expliquer la référence culturelle que l'on dit en français, en fait.
Ok. Alors donc, le nombril de Jean Anouilh, ça se passe au Chippen Street Theater, pardon, qui est donc dans le quartier de Chippendale. C'est très proche du CBD à Sydney. Les dates de représentation, quelles sont-elles? Et si on veut réserver une place, acheter des billets, comment il faut faire?
Eh bien, les dates de représentation, donc Le Nombril est une pièce de Jean Anouilh. Alison Windsor est notre metteur en scène. Et donc, nous la présentons 8 fois au Chippen Street Theatre. Donc, c'est du 17 juin au 26 juin. Le 20 juin est une... le 20 juin est un dimanche. Nous faisons matinée, comme on dit, qui commence à 5 heures du soir. Et sinon, donc, c'est du mercredi au samedi à 7h30, je crois.
D'accord.
Et donc, pour réserver vos places, n'hésitez pas à regarder notre page Facebook, le Petit Théâtre Sydney... sur Facebook, où nous avons aussi un site internet qui lepetitthéâtresydney.org.au, où aussi vous trouverez les liens et notre histoire d'ailleurs sur la troupe et sur le spectacle en particulier.
Merci beaucoup Xavier Barthélémy pour toutes ces précisions. Donc Le Nombril de Jean Anouilh du 17 au 26 juin au Chippen Street Theatre, et vous avez déjà un autre spectacle dans les tuyaux pour les prochains mois.
Tout à fait. Le fin octobre, nous avons notre prochain show qui, lui, se déroulera à Erskineville, au PACT Theater. Et ce sera donc un medley de petites pièces basées sur un thème commun qui est la musique. Et j'espère que nous aurons le temps d'en reparler d'ici là.
Avec plaisir, vous êtes toujours le bienvenu sur notre antenne. Merci encore Xavier Barthélémy et à bientôt.
Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
À présent, un rappel des principaux titres de l'actualité. 4 nouveaux cas locaux de coronavirus enregistrés au Victoria et des voyageurs en provenance de Melbourne testés positifs au COVID-19 déclenchent l'état d'alerte au Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud. Et en France, introduction du pass sanitaire et levée partielle du confinement. Et voilà, ceci nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous avec le français sur les antennes de la SBS, c'est samedi entre 13 et 14 heures. Bon après-midi et à très bientôt. Je vous laisse en compagnie de Vanessa Paradis dans son morceau « Il y a ».
Il y a là les fissures fermées, les serrures, comment voler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles sont.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.